Moi, j'aime quand on coule avec l'esprit, hein, voyez. À un moment donné, vous avez vu, il y a eu la joie de l'Éternel. Ça, c'est un signe que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Hein. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Hein. Et en tout cas, merci. Et on verra peut-être rechanter ce chant « Esprit de Dieu » parce que ça va dans la ligne du message. Ce que j'avais à cœur ce soir, parce que je sais qu'on est en petit comité, en tout cas merci à hein, ceux qui sont revenus là de Walibi, voilà. Et j'avais à cœur de partager un message concernant le témoignage. Et il y a ce texte, je ne l'ai pas mis, hein, notre... tu peux mettre le tableau du phare, voilà. J'aimerais qu'on s'imprègne de cela, parce que Dieu va... permettre que nous puissions être des témoins. Amen. Et j'ai pensé justement à cette dispersion, vous voyez, à cet été. Seigneur, permets-nous de rencontrer des personnes qui te cherchent. Amen. Des personnes qui te cherchent. Et frères et sœurs, je peux vous assurer qu'on en parlera tout cela. Le ciel est de plus en plus ouvert. C'est pas qu'il n'était pas, il était fermé. Ça va, ma fille? Elle est belle, ma fille. Hein, voilà. Et donc, il y a ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, qui m'est venu. Et après, on va parler de cela. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas trop long. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues ou deviennent nouvelles. C'est un processus hein, de vie, de résurrection, de sanctification, de gloire en gloire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et le ministère que nous avons tous, c'est le ministère de la réconciliation. Hein. C'est avoir ce message tout simple. Et on verra voilà, que Dieu a réconcilié l'homme qui était privé de la présence au travers de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui nous dit que par sa mort, Christ nous a réconciliés avec son Père. C'est dans Romains chapitre 5. Mais par sa vie, il nous a sauvés. Souvent, nous disons... le Seigneur nous a sauvés par sa mort. Oui, c'est vrai. Mais il nous a d'abord réconciliés par sa mort et il nous a sauvés par sa vie. Amen. Vous voyez, il y a cette prise de conscience que nous sommes des ambassadeurs, des témoins des lettres de Christ. Et j'aimerais que tout à l'heure, on va prier pour nos familles, pour aussi pour là, nos lieux aussi de vacances. Et j'aimerais qu'on s'imprègne de cette image. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que Dieu veut faire. Vous savez qu'une des caractéristiques, Dieu est amour. Oh. Vous savez qu'il y a 99 noms d'Allah. Mais il y a deux noms que Allah n'a pas, même s'il s'appelle le miséricordieux. Allah n'a pas deux noms, c'est le mot Dieu est amour et Dieu est Père. Et c'est pourquoi au travers de Dieu qui est amour, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous voyez, le Père, Dieu, le Père a créé, c'est le Créateur. Jésus, c'est le Rédempteur, celui qui nous a rachetés au travers de la croix, de son sacrifice parfait. Et le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Amen. Et les trois sont un, ce qu'on appelle Echad. Un comme nous sommes un, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et il y a cette incarnation, donc tout démarre du cœur de Dieu. Amen. Du cœur du Père, de l'amour du Père, de la grâce de Jésus et de la communion avec le Saint-Esprit. Et ce petit cœur qui descend sur le phare, eh bien, c'est la notion de l'incarnation. La parole s'est faite chair, elle a habité au milieu des hommes. Vous voyez, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les gens disent, mais où est Dieu ? Eh bien, on les invite à rechercher Jésus. Parce qu'au travers de Jésus, nous avons l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire, hein, nous dit Hébreux chapitre 1er, voyez. Donc il y a cette notion d'incarnation, et il y a aussi cette notion de phare, d'église, de communauté. Voyez, nous avons été baptisés par l'Esprit pour former un seul corps. Il y a l'image de la famille, du troupeau, du temple, de la maison et aussi de l'armée, voyez. Dans Jean 17, 21, que tout soit un afin que le monde croit. Voyez, vous serez mes témoins, acte 1, 8, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jean 13, 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. C'est pourquoi Dieu travaille, et on le voit au niveau des nations, je parle au niveau des familles de la terre, hein, le reste dans toutes les nations, au niveau des communautés dans une ville, tout cela, il y a une attraction, une unité. Ce n'est pas une unité institutionnelle, c'est une unité spirituelle. Et le monde va voir que nous sommes ses disciples à l'amour, et les gens vont connaître Jésus-Christ, vont croire en Jésus-Christ. Et donc, il y a cette communauté qui se rassemble pour être, vous voyez, cette lumière, ce phare. Mais ce phare a une fonction, c'est d'éclairer, ceux et celles qui sont autour, hein. Je crois que je vous avais parlé du phare d'Alexandrie. Hein. Je crois qu'il y a 60 kilomètres. Il y a un rayon. Je ne sais pas si vous estimez la puissance, la hauteur du phare pour éclairer 60 kilomètres alentour. Hein. Et donc, le Seigneur nous appelle en tant que communauté de gloire, Église de Jésus-Christ, de pouvoir, voyez, nous rassembler dans des rencontres comme des cultes, par exemple, nous rassembler, mais de nous répandre. Amen. Parce qu'on passe plus de temps à notre travail que dans l'Église. Amen. D'ailleurs, nous sommes l'Église. Amen. Et donc, communauté qui se rassemble, qui se répand dans le monde, qui est sel et lumière, petite barque et petit cœur qui vont amener, je dirais, la consolation, l'espérance, la foi autour de nous. Hein. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire, comme l'eau couvre le fond des mers. Il y aura une réalité, d'un Dieu vivant, personnel, proche, qui s'est manifesté au travers de Jésus-Christ et qui a fait de nous des témoins. Amen. Matthieu 5, 13 à 26, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Il y a une démonstration visible de l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est des actes. Voyez, les paroles doivent être accompagnées par nos actes. Et malheureusement, des fois, nos actes parlent plus que nos paroles. Dire, Seigneur, je veux démontrer ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Et on en parlera tout à l'heure. Voyez, donc l'Église se rassemble et l'Église se répand. Et je crois qu'il est très important que nous puissions comprendre cela, voyez. Et donc, on va passer un petit film qui s'appelle 8 minutes, hein, parce que le Seigneur nous appelle à nous rassembler, à nous répandre avec un message, amen, avec quelque chose que nous devons, voyez, transmettre. C'est pour ça que nous sommes les lettres, nous sommes des ambassadeurs avec, voyez, la notion, derrière nous, il y a tout un royaume. Amen. Il y a le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans une ambassade du royaume. Et là, nous manifestons la réalité du royaume. Vous savez, la première fois, là, les gens ne vont pas rencontrer d'abord Jésus. Hein, ils vont nous rencontrer. Ils ne vont pas forcément lire, comme disait quelqu'un, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais ils vont lire l'évangile selon vous. Et c'est notre démonstration de foi, d'espérance, de joie, de paix dans la souffrance qui va interpeller des personnes autour de nous. Hein. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, on vit des souffrances, voyez. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1. Il nous est dit ceci, que ceux qui ont droit à la souffrance ont droit à la consolation. Amen. Mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que la consolation est là pour que nous puissions consoler ceux qui pleurent. C'est-à-dire ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, peut-être dans différents drames de la vie, tout cela permet que tu sois un témoin de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta situation. Voilà, divorce, par exemple, deuil, chômage, j'ai vu l'intervention d'un Dieu vivant. Amen. Alors, quelle est cette histoire que Dieu... Et j'aimerais, quand j'ai lu ça, alors ça, vous le trouvez sur notre site internet et sur les pages d'accueil. Et quelle est l'histoire que nous devons transmettre? Amen. Voilà, on va éteindre les lumières et on va mettre un son. Merci Thierry.
Vas-y. Voici un outil éprouvé et efficace pour partager l'évangile du royaume de Dieu. Avec quelques adaptations, il rejoint tout âge et tout arrière-plan social et culturel. Nous l'appelons la grande histoire. J'aimerais donc vous raconter la grande histoire qui a changé ma vie. Chaque histoire a un début. Cette grande histoire commence avec Dieu, présent de toute éternité. Il crée la lumière, le jour et la nuit, le ciel, la mer, la terre et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Toute cette architecture complexe est extraordinairement ordonnée jusque dans les moindres détails. Et tout est tellement beau. Puis, Dieu crée le premier homme et la première femme. Il les crée à sa ressemblance. Complet, parfait, tout comme lui est parfait. Et Dieu leur donne un mandat, celui de gérer et de développer cette minuscule planète dans l'univers, la Terre. Il les bénit pour cette tâche. Au commencement, l'homme et la femme vivent une relation en complète harmonie avec Dieu. Ils parlent et se réjouissent ensemble tous les jours. Ils vivent avec Dieu une profonde amitié et une vraie collaboration dans un total émerveillement. L'homme et la femme vivent aussi ensemble en complète harmonie. Chacun est conscient de son identité propre et accepte celle de l'autre. Ils se savent égaux mais différents. Ils sont ensemble de réels acteurs et collaborateurs dans le projet de gérer et développer la Terre. L'homme vit en harmonie avec lui-même. Il se sait créé à l'image de Dieu, avec un corps merveilleux, des émotions variées, une intelligence totalement développée et un esprit vivant. Il découvre son identité unique. Il en est de même de la femme. Tous deux réalisent la position d'extrême honneur que Dieu leur a donnée. L'homme vit aussi en harmonie avec la nature et tout le reste de la création. L'univers créé par Dieu est soutenu par des lois physiques. Dieu confie la terre à la gestion de l'homme et de la femme. Il veut que ce soit eux qui en découvrent le plein potentiel et y développent un environnement harmonieux. Ces quatre relations constituent les éléments reliant toutes les dimensions de la vie humaine. Quel extraordinaire commencement! Mais aujourd'hui, quand nous regardons à notre monde actuel, nous ne voyons plus cette harmonie dans ces quatre relations. N'est-ce pas? Bien au contraire, ces relations sont brisées. Que s'est-il passé pour que cette planète soit ainsi le théâtre de tant de souffrances et de tristesses? La Bible nous explique que ce premier homme et cette première femme ont voulu être seuls aux commandes et être eux-mêmes comme Dieu. Ils se sont détournés de leur Créateur et de son projet parfait. Cette rébellion, cette désobéissance, aussi appelée péché, ont eu des conséquences catastrophiques pour tous les êtres humains et pour toute la planète. La relation harmonieuse entre l'homme et Dieu a été brisée. La peur, la honte, la colère l'ont remplacée. Loin de Dieu, l'homme est désormais livré à lui-même. Il devient son propre Dieu et se tourne vers toutes sortes d'idoles et de sagesses humaines. La vie éternelle est perdue. Les autres relations ont également été brisées. la relation de l'homme avec lui-même. Il vit une crise d'identité. L'homme se cherche, lutte avec une fausse image de soi, balançant entre orgueil, sentiment de toute-puissance et sentiment de rejet, de culpabilité, de peur, d'incapacité. Il n'y a plus de paix dans son cœur. La relation de l'homme avec les autres. Les relations deviennent compliquées, conflictuelles, sur un mode oppresseur-oppressé. La trahison, le jugement, la jalousie, l'infidélité, la violence et la guerre. La liste est si longue. La relation de l'homme avec son environnement. Le travail devient pénible, les ressources de la terre mal gérées et détruites. Apparaissent aussi les catastrophes naturelles, les maladies et finalement la mort physique. L'harmonie qui existait à la création est rompue. Désormais, tous les hommes naissent dans un monde brisé. Même si heureusement, certains aspects de la bonté de Dieu demeurent encore visibles, tels les merveilles de la nature, le rire d'un enfant, des actes d'entraide, d'amour gratuit. Mais n'y a-t-il pas encore dans le cœur de chaque être humain une nostalgie d'harmonie et de paix? Pourrions-nous retrouver ce qui a été perdu? Réparer ce qui a été brisé? La grande histoire raconte une bonne nouvelle. Dieu, le Créateur, aime tellement ce monde qu'il ne pouvait le laisser ainsi, ni ne pouvait supporter de nous voir rester dans cet état. Alors, il a fait pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Au travers de la vie de Jésus, son Fils, le Messie, Dieu est venu au sein de notre monde brisé. Jésus était parfait, sans faute, sans péché. On ne pouvait rien lui reprocher. Il était le seul homme à vivre l'harmonie parfaite dans les quatre relations. Et quand bien même il était parfait et innocent, il a accepté de mourir supplicié sur une croix pour nous. Il voulait prendre sur lui la punition et la mort que nous méritions. Puis, il a été mis dans un tombeau. Mais 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Qui que l'on soit, et peu importe d'où l'on vienne, Jésus nous ouvre un chemin pour sortir de notre monde brisé et revenir dans le projet de Dieu. Si tu crois cela, que Jésus a payé la punition que tu mérites, qu'il est mort à ta place et que tu te détournes du mal, alors ta relation avec Dieu sera restaurée. Déjà maintenant sur terre et pour l'éternité entière, tu entres dans son royaume. Dieu entre dans ta vie. Tu deviens une nouvelle personne. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que notre relation avec Dieu est restaurée, un processus de restauration commence dans les 3 autres relations. Avec les autres, nous apprenons avec Jésus à aimer et servir les autres, notre famille, nos voisins, nos collègues. Avec nous-mêmes, nous découvrons notre identité et notre destinée. Nous ne vivons plus dans la honte, la culpabilité et la crainte. Avec notre environnement, nous devenons à nouveau de bons administrateurs de notre environnement. Nous découvrons que Dieu veut bénir et donner un sens à notre travail. Pour finir, la grande histoire ne s'arrête pas là. Dieu est en train d'écrire le dernier chapitre. Dans la Bible, il nous dit qu'un jour, il jugera le monde et mettra fin à tous les maux. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de souffrance, ni peur, ni larmes pour tous ceux qui ont cru. La mort sera définitivement vaincue et Jésus régnera pour toujours. Cette grande histoire a changé ma vie et celle de millions de gens. Puis-je te demander ce qui t'interpelle dans cette histoire? Comment vis-tu ces 4 relations aujourd'hui?
Vous avez la grande histoire en arabe, voilà, sur la droite. Donc, voyez, nous sommes ambassadeurs d'un royaume, nous sommes ambassadeurs et nous avons un message de la réconciliation. Vous avez aimé ce film? Moi, j'aime beaucoup parce qu'en 8 minutes, il explique d'une manière pertinente et aussi, actuelle, je dirais, le message. Vous pouvez le transmettre aussi donc, à... ceux et celles qui sont en recherche, qui ont soif de Dieu. Donc cette grande histoire, vous voyez, c'est pas une histoire d'une religion, surtout ne tombons pas là-dedans, c'est une histoire de royaume. Jésus a manifesté le royaume de son Père. Hein. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, vous voyez. Et donc, il est important de se tourner tourner les personnes, non pas vers une religion, mais vers un Père. Dieu est un Père, Dieu est amour. Vous voyez, souvent les gens nous disent, vous êtes quoi? Vous êtes catholique, protestant, évangélique? Vous marche pour Jésus? Est-ce que c'est des... On nous a posé la question, est-ce que c'est une marche catholique, protestante, évangélique? C'est une marche pour Jésus. Tous ceux et celles qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien nous le proclamons et nous n'avons point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Merci Maxime de mettre alors quelques versets pour je dirais, asseoir cette pensée. C'est 1 Timothée chapitre 2, versets 4 et 5. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Amen. Alors il y en a qui l'acceptent, il y en a qui le rejettent. Et je ne sais pas si vous avez vu, la définition du péché, c'est la rébellion. Le vol, tout cela, c'est je suis... Vous voyez, il y a un jour, quelqu'un a dit ceci, il y a deux manières de se... l'orgueil, il y a deux manières d'être orgueilleux, c'est se prendre pour Dieu ou se passer de Dieu. Il y a des gens qui se prennent pour Dieu et il y a des gens qui se passent de Dieu. Vous voyez, ça c'est la rébellion. Hein, nous n'avons pas besoin de toi. Hein, on l'a même enlevé de la Constitution européenne, l'héritage chrétien. On ne veut pas de toi. On ne veut pas de toi dans nos universités, dans nos écoles. On ne veut pas de toi au niveau des lois concernant l'avortement, concernant la fin de vie, tout cela. Et là, l'autre, Ecclésiaste 3, 11, il fait toutes choses bonnes en son temps et il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous voyez, dans chaque personne, il y a la pensée de l'éternité. Et je suis toujours étonné, bon, Clémentine n'a pas pu venir, mais pour ceux qui étaient là, qui ont entouré Clémentine, on voyait des cœurs brisés, massacrés par la vie. Et lorsqu'il y a eu des témoignages, plusieurs ont dit, bien, si tu nous vois d'en haut, que les anges t'accompagnent, c'est des non-croyants qui vous parlent de l'au-delà. Pourquoi ? C'est parce que dans chacun, même si on dit « Dieu est mort », il y a la pensée de l'éternité. Et la prière, c'est que, qu'on prie que l'Esprit puisse réveiller cette pensée de l'éternité, je dirais, chez les personnes. Hein. Amen. Et nous sommes dans un contexte incroyable, dans des temps périlleux mais glorieux, où les gens ils savent très bien, c'est même eux qui parlent d'Apocalypse, voyez, et il n'y a plus d'espérance, il y a de l'angoisse, il y a de la crainte parmi les nations. Et en témoignant, en étant à l'écoute de l'Esprit, comment atteindre telle et telle personne, eh bien, nous pouvons réveiller cette pensée de l'éternité. Un autre verset, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Vous n'êtes jamais... des fois, lorsque je témoigne, j'ai l'impression d'être devant des murs. Je ne sais pas vous. Les gens ne veulent pas de Jésus. Point. Ils ne veulent pas de Dieu. Alors, c'est là qu'il faut avoir un peu de sagesse en disant, mais en fin de compte, vous ne voulez pas de quel Dieu ? Et la première des choses qu'ils vont vous dire, c'est, je ne veux pas de la Dieu de la religion. Et c'est justement où il faut parler du Notre Père. Vous connaissez la prière du Notre Père où Jésus a manifesté le Notre Père, voyez. Il a parlé du Père, il n'a pas parlé d'une religion. Jésus n'a pas instauré une religion, il a instauré un royaume. Amen. Un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Et tout le monde est d'accord de dire, il y a de l'injustice, Il n'y a plus la paix, il y a de l'insécurité, il n'y a plus la joie. Donc si nous voulons retrouver cette réalité de la justice, la paix et la joie, eh bien laissons le royaume de Dieu être manifesté en nous et au travers de nous. Amen. Et moi je bénis Dieu parce que il y a un combat spirituel. Hein, quand, vous voyez, quand il y a quelqu'un, un jour quelqu'un me dit, moi je ne crois pas au diable. Je ne crois pas au diable. Je dis, c'est très simple. Donne-toi à Jésus et tu verras s'il n'y en a pas un qui va s'opposer à ce que tu t'approches de lui. Vous voyez, si notre évangile, et c'est-à-dire, et c'est pour ça, moi je crois dans la prière, dans le combat spirituel, dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'unité, parce que ces choses, eh bien, vont, je dirais, détruire ou affaiblir les principautés au-dessus de cette ville. Amen. Oh, oh. Amen. Bon, ça va. Seigneur, fais-nous grâce. Et on voit que dans différentes communautés, vous voyez, on voit des gens qui s'approchent de Dieu. Amen. Et moi, je me réjouis de cela. Amen. Amen. Le Seigneur me dit, avant que tu connaisses la croissance dans l'église du tabernacle, ça va venir, réjouis-toi que les autres églises grandissent. Oh, hey. Bon, bon. Et on voit des églises et on bénit Dieu pour cette... Vous voyez, notre rôle, notre mandat, c'est de permettre que le ciel reste ouvert. 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 17. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque... vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et voyez, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Ça me rappelle une histoire de William Booth, qui est le fondateur de l'Armée du Salut, alors qu'il prêchait dans les rues de Londres l'Évangile et qu'il laissait les pasteurs discuter de la Sainte-Seine, tout cela. Il prêche et à un moment donné, il y a des gens qui sont venus, ils lui ont craché dessus. Paf ! Gros crachat comme ça. Et il y a vite un jeune officier qui voulait. Il dit non, laissez-moi, n'enlevez pas ce crachat parce que j'ai reçu la même décoration que mon Seigneur. Oh, oh. Alors si on vous calomnie quoi que ce soit, bénissez, priez. Amen. Ne soyons pas bloqués parce que des personnes, vous voyez, c'est peut-être le commencement et c'est le commencement d'un processus dans la personne. Hein. Et souvent, j'ai remarqué que les gens les plus opposés, c'est eux qui viennent le plus rapidement à Jésus. Les gens les plus difficiles, c'est les gens religieux. Oh, vous avez jamais entendu ça ? Mais à mon âge, pauvre jeune homme, je vais pas changer de religion. Et vous expliquez que, vous voyez, ce n'est pas une religion. Vous voyez, alors bénissez la personne. Amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. Un jour, je me souviens, j'étais pasteur stagiaire à Ajaccio Porto Vecchio. Moi, j'étais là dans mon zèle. Je distribuais au marché. Il y avait une librairie chrétienne, tout ça. Il y a un vieux monsieur qui s'approche, qui me dit avec son accent. Il dit, jeune homme, ici, c'est la Corse. On a les montagnes, on a la mer, on a le soleil. Moi, je suis retraité. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Moi, j'ai pris, mais vous voyez, ça m'a coupé le zèle d'évangéliser. Oh, ça vous est jamais arrivé, ça ? Dire Seigneur, et malheureusement, eh bien, on se terre dans le mutisme. Hein, mais je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Et vous voyez, ce qu'on nous dit par rapport à la laïcité, c'est-à-dire actuellement, vous avez au niveau gouvernemental, tout ça, ce qu'on appelle la laïcité athée. La laïcité, c'est la liberté pour chacun d'opinion, de religion. Vous voyez, c'est ça, cette liberté d'expression, tout ça. Et souvent, lorsque vous pouvez parler de tout, tout le monde vous écoute. Dès que vous parlez de Jésus, tout le monde arrête, vous voyez ? sur les plateaux télé. Remarquez ça. Et donc, il nous est dit ceci, donc, et ils disent, vous faites du prosélytisme. Non, le prosélytisme, c'est par la contrainte, par la violence. Mais là, il nous est dit, faites avec douceur et crainte. Vous voyez ? Avec douceur. Si différentes personnes ont le droit de partager leur vision du monde ou leur vision de l'homme, tout cela, nous avons, point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Et nous avons, et moi j'ai de plus en plus de, vous voyez, de, comment dire, de joie de dire Seigneur, merci. Alors que moi j'étais un grand timide, c'est de pouvoir témoigner. Amen. Témoigner. Amen. Un jour, j'étais dans une rencontre dans la hall de ville avec Grégory Doucet. Il y avait un monsieur qui était là avec une grande croix. Ça, c'est la honte. Je vous dis des fois la honte. Hein. J'étais là, je dis, monsieur, bonjour, je ne vous connais pas, vous êtes qui ? Je suis l'archevêque de Lyon. Oh ! Donc, vous voyez, des fois, on a des jugements. Attention à l'esprit de jugement. Amen. Et on va voir quelle est l'attitude de Jésus. Donc, en faisant le bien, si tel, donc, vous voyez, bonne conduite, douceur, souffrir en faisant le bien. L'autre verset, il nous est dit ceci, et on va prier. Ah oui, Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et je suis persuadé que ceux qui ont semé avec l'âme, nous allons récolter avec chant d'allégresse. Voyez. Et donc, très important que notre cœur ne s'endurcisse pas. À cause des soucis de la vie, des richesses du monde, tout cela, on est dans un confort. Mais Seigneur, que mon cœur ne s'endurcisse pas. Amen. Lorsque je sens que mon cœur s'endurcit, vous savez ce que je fais ? Je prends le métro et je regarde tous ces gens qui sont dans les trams de métro. Je vais place Bellecour au centre et je commence à prier. Et je vois toutes ces personnes qui sont errantes, sans berger. Et je dis, Seigneur, ouvre le cœur. Donne-nous des occasions de pouvoir témoigner en tant que communauté, vous voyez, église de la ville, témoigner. Amen. Si votre cœur s'endurcit, je vous encourage à aller visiter le quartier de... Bon, c'est plus difficile, mais de Vinatier, Saint-Jean de Dieu, route de Vienne. Vous allez à Cardio, vous allez à Neuro, vous allez à Lyon-Sud et vous allez voir des malades. Et là, votre cœur est ému de compassion. Et vous bénissez Dieu parce que vous êtes en bonne santé. Et vous voyez, quand nos cœurs s'endurcissent, dire Seigneur, je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse, donne-moi d'avoir ton regard. Et avant, vous voyez, toutes sortes de techniques d'évangélisation, vous voyez, moi je crois qu'il faut avoir le regard de Dieu sur les personnes. Et après, le Saint-Esprit va vous conduire, va vous donner des outils, des moyens, mais très important, ouvre mes yeux pour que je sois ému de compassion, être attentif aux personnes que nous allons rencontrer. Au travers de notre vie, notre attention, notre gentillesse, nos services, notre écoute, personnes vont être interpellées. Vous voyez, ma fille, tous les matins, elle se lève, Seigneur, je veux aujourd'hui refléter Jésus. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, vous voyez. Et donc, dans nos actes, nos paroles sont comme des semences de vie. Ma responsabilité est de semer des graines de foi et d'amour. Ma responsabilité, ce n'est pas de convertir les gens. Vous serez mes témoins, voyez, en actes, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et c'est ainsi, eh bien, qu'ils verront, eh bien, la réalité du Christ. Amen. Alors, ah oui, une histoire. Alors, Alain Lopez, plein de feu, avec ses... J'étais en train de charger ma voiture, j'avais, écoutez bien, Ça, c'est pour à ma honte. J'avais 3000 flyers, qui est Jésus, tout ça. J'avais 1500 évangiles, je chargeais. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, tu vois le peintre là, qui a passé un mois dans ton allée, tu as pu discuter avec lui, tout cela. J'aimerais que tu lui offres un évangile. Je ne sais pas vous, on est capable de prêcher dans les nations, on est capable de prêcher à Place Bellecour, et on est incapable de témoigner à notre voisin. Je ne sais pas vous, parce que notre voisin, on le croise tous les jours. Ah. Je dis, Seigneur, mais attends, ouais, t'es bien gentil. Alors le Seigneur me dit, mais attends, t'as combien ? 1500. 1500 évangiles, 3000 flyers, tu ne vas pas donner un évangile à ce peintre que tu as croisé tous les jours. Ben Seigneur, Saint-Esprit, comment je dois aborder ? Ouvre ton portefeuille, tu y trouveras 5 euros, tu lui donneras 5 euros dans un évangile et tu béniras cette personne. Eh bien, vous savez quoi ? Alors, je ne sais pas s'il appréciait les 5 euros ou l'évangile. Mais en appréciant les 5 euros, je pense qu'il va ouvrir l'évangile. Amen. Vous voyez, ce sont des occasions très simples. Et à ma honte, j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que je suis capable, vous voyez. Les gens autour de nous sont désespérés, angoissés, déprimés. Il y a une atmosphère d'insécurité, aucune espérance. Et il y a l'opportunité pour l'Église de se lever dans l'unité, la prière et le témoignage. Luc 9. Je termine. Luc 9, 19, 9. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et je vois souvent, notamment des mères qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur mari, tout cela. Et elles prient, et c'est juste. Mais sachez que parce que vous avez fait entrer Christ dans votre cœur, vous l'avez fait pénétrer dans votre maison. Et le salut est entré dans la maison. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un temps où la personne va être touchée par votre témoignage, surtout si vous ressemblez à Jésus. Amen. Alors, si vous ne ressemblez pas à Jésus, voyez, amen. C'est, voyez, ressembler. Non, j'ai des tas d'histoires à vous raconter. Et là, il y a Georges Muller, l'audace de la foi, celui qui nourrissait des milliers d'orphelins chaque jour. Il priait pendant toute sa vie pour 3 personnes. Il a prié pour 3 personnes. 10 ans après, une personne s'est convertie. 20 ans après, une autre personne s'est convertie. Et la troisième personne s'est convertie le moment où on enterrait Georges Muller. Dieu, il n'a pas vu, mais il a cru que le Père allait exaucer la prière des mères, la prière des pères, la prière, vous voyez. Je crois que le salut est entré dans ta maison. Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas automatique, parce que ça dépend du témoignage, de la prière. Alors, on est sauvé par grâce. Attention, on n'est pas sauvé par truc. Mais si vous voulez, le salut est entré dans votre maison et il va se diffuser. Amen. C'est pour ça qu'il est important de prier. Et vous savez, j'ai vu ça, je n'ai plus le temps d'expliquer comment mon père a rencontré Jésus sur son lit de mort. Mais je sais une chose, c'est que arrêtons de nous faire des films. Il va se convertir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Dieu va le toucher quand il veut, avec qui il veut et où il veut. Point. Et nous restons dans la confiance parce que Dieu entend les prières. Alors, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, vous connaissez ça, qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà, j'aimerais qu'on puisse chanter un dernier chant, Esprit de Dieu, et on va prier pour nos familles, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc, vous voyez, il y a la grande histoire, et nous allons prier simplement. Voilà, les chants, je ne sais pas si vous pouvez vous mettre en place. Esprit de Dieu, amen. Je vous invite à vous lever maintenant, et on a entendu parler d'être des ambassadeurs, alléluia, des témoins, et on va prier pour cet été, afin que, vous voyez, des personnes, on n'est pas là, vous voyez, pour, comment dire, ne perdez pas du temps avec des gens qui ne veulent pas de Dieu. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu. Amen. Et au travers, je dirais, d'un repas, d'un café, au travers d'un service, au travers d'une prière, au travers d'une écoute, eh bien, les gens peuvent être interpellés en disant, mais vous êtes différents des autres. Amen. Et vous pouvez dire, bien voilà, je suis croyant. Ah, vous croyez en quoi? Eh bien, je crois dans un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'est manifesté au travers de Jésus. Voilà, prions, on va chanter ce chant et on va simplement terminer par la prière maintenant. Et pensez à vos familles, pensez à vos lieux de vacances, que le Seigneur nous dirige vers ceux et celles qui cherchent Dieu. Amen.